Journée à l'écoute de Matin Première. Ok, on aurait dû entendre Simone de Beauvoir dans une archive de l'INA, mais ce n'est pas grave, elle n'est pas là. C'était en 1979, elle était sur le plateau de Michel Drucker et elle évoquait le combat féministe avec lui. Simone de Beauvoir, elle est au cœur de votre dernier essai. Tristan Danon, bonjour.
Bonjour,
Simone de Beauvoir, mais avec grand plaisir. Simone de Beauvoir avait écrit Le deuxième sexe en 1949. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque.
L'accueil avait été compliqué déjà. C'était un livre qui essayait de mettre chacun face à ses responsabilités et c'était pas forcément évident pour tout le monde.
Vous publiez en 2021 La paix des sexes, dans lequel vous évoquez à de nombreuses reprises Simone de Beauvoir. Il y a un lien entre les deux ouvrages, entre Le deuxième sexe et La paix des sexes?
Oui, sans doute, le refus du manichéisme, le refus de déverser toute la culpabilité d'une situation et toute la responsabilité d'un état de fait sur un seul sexe, en fait. Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe, avait essayé aussi de mettre en cause la responsabilité des femmes dans leur propre sort. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai récupéré d'elle.
Ouais, on va en parler. Hein. Tristan Danon, vous êtes journaliste, romancière. On va vous présenter à celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous avez publié notamment Noir délire. Hein. C'était une vision romanesque du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Et puis Le bal des hypocrites, où vous racontez l'agression sexuelle dont vous avez été victime, tentative de viol commise par Dominique Strauss-Kahn, où vous décrivez aussi le système qui vous a poussé à ne pas déposer plainte, et puis qui vous a reproché ensuite de ne pas l'avoir fait ou de l'avoir fait trop tard, puisque vous avez finalement déposé plainte alors que les faits étaient déjà prescrits. Vous écrivez, ce sont les premiers mots de votre essai, « Sur l'échiquier victimaire, je reste une référence, je suis un cas d'école, mon histoire valide tous les excès, je suis devenu le bras armé d'un combat qui refuse la nuance. Je suis l'arme d'une guerre qui n'est pas la mienne. » Fin de citation. C'est quoi ce combat, Tristan Danon, qui refuse la nuance? C'est quoi cette guerre? C'est ce qui est devenu aujourd'hui le mouvement féministe?
C'est-à-dire que ce livre, je l'ai écrit, je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'était un livre contre le féminisme 2.0. C'est surtout un livre pour, en fait. Je me suis jamais reconnue dans la radicalité du combat féministe que j'observe autour de moi aujourd'hui, dans les radicalités, puisqu'il y a plusieurs féminismes et plusieurs radicalités. Et l'extrémisme est quelque chose qui m'a toujours rebutée. Et je me suis dit qu'il fallait absolument revenir à une capacité de nuance et de discernement dans le combat féministe. Il y a encore énormément de combats qui nous restent à mener. Et je pense qu'on doit les prendre collectivement. On doit rallier les hommes à cette cause-là, ouais. Ce qui n'est pas forcément le discours des néo-féministes, même si c'est un mot un peu fourre-tout.
C'est qui les néo-féministes? Qui mène cette guerre qui n'est pas la vôtre, comme vous l'écrivez?
Il y a plusieurs courants. Il y a le courant woke, le courant intersectionnel, le courant écoféministe, le courant féministe, anticapitaliste. Enfin, voilà, il y a tout un tas de courants comme ça qui sont chacun dans une radicalité, dans un extrême, et qui tous ont quand même comme point commun d'essayer de démontrer à toute force que nous vivons dans une société patriarcale et phallocrate. Et je pense que ça n'est plus vrai.
N'est plus patriarcale aujourd'hui.
Je pense en tout cas qu'elle n'est plus organisée comme elle l'a été par le passé, par des lois qui étaient patriarcales de fait et qui étaient des lois qui étaient inégales entre les sexes. Elle n'est plus organisée de façon patriarcale. Aujourd'hui, nous avons légalement les moyens d'exiger l'égalité des sexes. Alors, il y a énormément de relents de sexisme et de foyers où demeure le sexisme, énormément. On n'y est pas en termes d'égalité salariale, on n'y est pas en termes de traitement des violences faites aux femmes, on n'y est pas à plein de niveaux encore entre les hommes et les femmes, mais nous avons les moyens de lutter contre ça, on a les lois avec nous, et je pense qu'il faut rallier les hommes à cette cause-là, parce qu'ils sont très souvent les premiers à vouloir que ces choses-là s'arrangent.
Quand vous avez, pour parler de votre cas, voulu vous faire entendre comme victime de Dominique Strauss-Kahn, quand vous avez voulu déposer plainte, est-ce que vous avez reconnu, vous avez connu des difficultés? Est-ce que vous avez été confronté à un homme, à un système patriarcale,
non,
justement, qui serrait les coudes, des hommes qui serraient les coudes entre eux?
Non, pas du tout. J'ai été confrontée à énormément de difficultés, beaucoup plus des difficultés de caste qui touchait pareillement des hommes et des femmes. J'ai eu un mur face à moi de personnes qui faisaient mine de n'être au courant de rien. Il y avait autant d'hommes que de femmes. J'ai été conspuée, lynchée, insultée par autant d'hommes que de femmes, et j'ai été soutenue, très honnêtement, par autant d'hommes que de femmes, et je peux vraiment, vraiment, vraiment pas faire de différence entre les deux. Très honnêtement, hein, c'est pas une posture. J'ai eu des femmes qui ont été terribles, mais terribles, et d'une violence inouïe, et j'ai eu des hommes qui ont été merveilleux, et l'inverse s'est vu aussi.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes plutôt, pour reprendre deux hashtags qui ont été fort diffusés à l'époque, est-ce que vous êtes plutôt MeToo que Balance ton pouvoir ?
Complètement. Mon cœur est acquis à MeToo. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la solidarité dans MeToo, et il y avait une énorme différence entre les deux, c'est que le hashtag Balance ton porc a mis sur le même plan énormément d'actes qui n'étaient pas comparables, même s'ils étaient tous inacceptables. On ne peut pas punir et bannir de la même façon un violeur et un goujat. On ne peut pas punir de la même façon une parole sexiste, quand bien même elle serait inacceptable, et une agression sexuelle. On peut pas tout mettre sur le même niveau et tout punir de la même façon et extraire de la vie sociale toutes les personnes qui auraient commis des actes qui ne sont même pas comparables, quand bien même, encore une fois, je le répète, ils sont inacceptables tous autant qu'ils sont.
Ouais. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous reprochez, parce que vous dites que vous ne faites pas un livre contre, mais il y a quand même des phrases et des passages
nécessairement,
assez dures.
Puisque je suis pour la nuance, nécessairement, je suis contre la radicalité et le refus
du discernement. Qu'est-ce que vous reprochez aux féministes radicales et en quoi elles peuvent être dangereuses pour notre société aujourd'hui, Tristan Bannon ?
Je leur reproche de rétablir une guerre des sexes qui fait que on éloigne déjà complètement les hommes du combat féministe, et que ça, c'est quand même terrible de s'aliéner la moitié de l'humanité pour parvenir à résoudre un souci, un problème, un vrai problème d'ailleurs, plus qu'un souci, c'est quand même absurde. Et je leur reproche de ne pas prendre à bras le corps les vrais problèmes et de se contenter de la dénonciation permanente. Face à un problème, quand on a un problème face au traitement des violences conjugales, par exemple, je vous ai entendu en parler juste avant, il faut chercher des solutions. Répéter à toute force que les hommes sont violents et que les femmes sont des victimes, ça ne change rien à l'affaire, si ce n'est que ça crée un climat délétère qui mène nulle part.
Sur ces violences conjugales, vous consacrez aussi un chapitre au terme féminicide qui est apparu récemment dans les médias. C'est pas une avancée, ça, d'arrêter de parler de crime passionnel comme une forme d'excuse pour celui qui aurait tué sa conjointe ?
Le crime passionnel, c'est un terme que je ne cautionne pas du tout. En revanche, le meurtre sur conjoint est beaucoup plus clair. Et pourquoi ça me pose un problème ? C'est pas qu'une querelle de sémantique. Le problème, c'est qu'un féminicide, c'est quelque chose qui est très clair, c'est tuer quelqu'un en fonction de son sexe. Donc, les féminicides, ce sont le meurtre de toutes les petits bébés-filles en Chine pendant très longtemps. C'est l'excision qui amène à la mort de beaucoup de femmes, c'est pendant des guerres quand on ne tue que des femmes. En l'occurrence, le meurtre sur conjoint, c'est pas du tout la même mécanique. Ça n'est pas tuer une femme parce qu'elle est une femme, c'est tuer une femme parce qu'elle est sa femme. Et ça n'est pas qu'un problème sémantique, c'est un problème d'analyse du problème. Parce que si on tue une femme parce que c'est sa femme, on se resitue dans le couple. Ce couple a des amis, ce couple croisait des personnes dans les couloirs, ce couple a des voisins, ce couple a des collègues. Et souvent, on s'aperçoit que toutes ces personnes étaient au courant de ce qui se passait et qu'ils n'ont rien dit au prétexte qu'ils considéraient que c'était la vie privée, qu'ils ne voulaient pas se mouiller, qu'ils ne voulaient pas de problème, qu'ils ont vaguement essayé d'en parler mais qu'ils n'ont pas eu de retour. Donc, est-ce que ce serait pas plus intéressant, par exemple, d'essayer de responsabiliser l'entourage ? Et peut-être de faire pression sur la libération de la parole de l'entourage aussi. Et au-delà de ça, le terme féminicide élude toute possibilité d'analyser aussi des cartographies, des comportements, peut-être des entourages sociaux, des éducations, des milieux sociaux qui peut-être favorise, je sais pas, il faudrait analyser la chose. On ne l'analyse pas, on parle de féminicide, on met tout dans ce terme, et finalement, en voulant mettre en lumière les meurtres sur conjoint, on les invisibilise complètement.
C'est ça le combat à mener pour les prochaines années du féminisme. Jeudi, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En France, le ministère de l'Intérieur a sorti des chiffres pour 2020.
Et des mesures.
159 000 victimes de violences conjugales. Parmi elles, 139 000, un peu plus d'ailleurs, sont des femmes. C'est une hausse de 10% par rapport à 2019. C'est ça le premier combat féministe aujourd'hui ?
Le premier combat, c'est de s'attaquer aux causes et d'essayer de trouver des solutions. c'est moi je pense qu'il faut absolument responsabiliser les entourages de ces foyers de violence. Énormément, je parle dans mon livre d'un ancien juge d'instruction qui faisait ce travail-là à chaque fois qu'il y avait une plainte pour violence, qui allait voir l'entourage et qui questionnait l'entourage et qui essayait de les responsabiliser. Il y a des choses à faire à ce niveau-là, il y a aussi des choses à faire là en France, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, on expérimente la plainte chez autrui qui permet aux femmes de ne pas avoir à passer le barrage du commissariat. Quand je dis le barrage, c'est parce que c'est quand même très compliqué de se rendre dans un commissariat, d'aller déposer plainte. Donc là, c'est la plainte qui vient à soi. Ça peut être chez une assistante sociale, ça peut être dans d'autres lieux. Mais ce sont des choses qui sont testées. Il y a énormément de choses comme ça qui doivent être essayées pour favoriser la plainte et surtout favoriser la réaction utile. Et voilà, et c'est peut-être ça que je leur reproche. Comme vous dites, c'est un peu contre elle. Oui, nécessairement, je voudrais apporter la nuance qui nous fait sortir de la dénonciation permanente.
Dépasser le statut de victime et inclure les hommes dans le combat féministe, c'est ce que vous plaidez dans cet essai Tristan Bannon, La paix des sexes, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.